Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile, de l'industrie. On écume toutes les news et on vous résume tout ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Sauf que, en fait, aujourd'hui, on va pas faire ça du tout. Et on va plutôt vous parler de ce que c'est que, qu'être un développeur indépendant, un petit dev qui essaye de faire son jeu contre les vents et les marées. Je suis en fait en vacances, donc on a préenregistré cet épisode spécial et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous, même si on parle pas d'actualité. Et à vrai dire, je pense que ça risque d'être encore plus intéressant que quand on parle d'actualité, parce que je suis assez excité des invités avec qui on va parler aujourd'hui. Ils ont un projet hyper sympa et ils vont pouvoir donc nous parler de ces sujets qu'on n'évoque pas forcément dans les podcasts en général. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et j'ai donc le plaisir de recevoir Tristan et Yannick de Sentry Games, qui est une petite boîte indé de Rennes. Comment allez-vous, messieurs ?
Eh ben, bonjour, ça va très bien, et toi ?
Eh ben, moi, ça va super bien. Donc là, c'est la douce voix de Tristan qu'on entend. Il y a Yannick aussi qui est réveillé de l'autre côté. Comment ça va, Yannick ?
Oui, bonjour.
je dis réveillé parce que je leur ai demandé au dernier moment de faire l'émission une heure plus tôt. Donc, je sais que pour les gens qui travaillent tard et dur pendant la nuit, c'est pas forcément évident. Donc, je vous remercie d'avoir accepté de faire ça un peu plus tôt.
Non, t'inquiète, avec plaisir.
Donc, vous êtes... L'idée de cet épisode, pour les auditeurs, c'est vraiment d'essayer de parler de manière assez candide avec les développeurs de leur parcours, de ce qui s'est passé pour eux. Alors évidemment, ça ne représente pas forcément le parcours de tous les devs de la Terre, mais vous avez quand même maintenant une petite expérience de cette aventure dans laquelle vous vous êtes lancé il y a un an. Et on va en discuter ensemble et voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les surprises, ce que vous pensiez, ce que vous y aviez vu venir et ce que vous n'aviez pas vu venir. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement l'un et l'autre en quelques mots, nous dire, enfin dire aux auditeurs d'où vous venez et ce que vous faites. Peut-être commençons par Tristan.
Ouais, alors moi je suis développeur depuis 8 ans maintenant. J'ai fait un parcours assez classique de développement informatique, un IUT et puis une école d'ingé, avec en idée de faire toujours de la 3D en fait. J'avais déjà en idée de faire du jeu vidéo et puis ces matières-là. Et du coup, j'ai trouvé des IUT, enfin, un IUT et une école d'ingé qui étaient très liés à la 3D. Et bon, après, j'ai fait un parcours classique de prestataire de services où j'ai fait du développement mobile, rien à voir avec du jeu vidéo ni de la réalité virtuelle. Et puis, j'ai, par opportunité, j'ai pu retourner dans mon ancien laboratoire de recherche à l'INRIA, où j'ai travaillé notamment avec Dassault Systèmes ou Golem, qui fait un peu les effets spéciaux pour Game of Thrones, Walking Dead, et puis des choses de simulation de foule comme ça, où là j'ai vraiment renoué avec la 3D et la réalité virtuelle. Et puis ensuite, Insane Unity, un studio de jeux vidéo rennais aussi, où j'ai rencontré Yannick, et puis après l'aventure Sentry Games depuis un an.
Très bien. Donc toi, tu as fait un parcours, effectivement, comme tu le disais, de dev classique, école, d'autres domaines du développement. Et puis, il y a un an, vous vous êtes lancé avec Sentry Games en indé. On va en reparler dans un moment. Mais entre-temps, donc Yannick, toi, j'ai cru comprendre que t'es peut-être un peu plus jeune. T'as quel âge d'ailleurs, Tristan ?
Oui.
Moi, j'ai 32, je vais sur mes 33.
D'accord. Et donc Yannick, t'es un peu plus jeune, c'est ça ?
Moi, j'ai 24 ans. Et oui, ça, le parcours commence un peu pareil, mais je l'ai nettement abrégé. Je suis pas passé par la case Presta. En fait, j'ai fait une école d'ingé en info, moi aussi. Et je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à quasiment à la sortie. Mais j'ai eu de la chance de tomber l'année où l'école commençait un cursus jeux vidéo en dernière année. Du coup, un semestre où on apprenait les petits rudiments et surtout on faisait un projet, on faisait quelques game jams aussi. Et comme on était près de Paris, l'école était à Évry, c'était l'occasion de faire venir des gens des studios parisiens. Donc c'est pas mal pour se mettre direct dans le bain et avoir des vrais retours d'expérience. Et donc à la sortie de mon diplôme, j'ai déjà fait mon stage de fin d'études chez Insane Unity, qui venait de se monter à ce moment-là. Et après, je suis resté développer là-bas pendant un an et j'ai rencontré Tristan à ce moment-là.
D'accord. Et donc, quand Insane Unity a fermé ses portes, c'était il y a un peu plus d'un an, si j'ai bien compris,
Ouais.
vous vous êtes dit, bon, on va se lancer. Ah zut, j'avais une
C'est ça.
question. J'avais une question et je l'ai déjà oubliée. Une question hyper importante, mais essentielle. Bon, ça me reviendra. Vous voyez, intervieweur très professionnel.
Pas de souci.
Mais oui, donc, oui, si, ça y est, ça m'est revenu. C'est tôt le matin pour moi aussi, hein. J'ai un bébé de 6 mois. Forcément, le cerveau est un petit peu chamboulé. Vous êtes des gamers, j'imagine, depuis longtemps tous les deux. Je pense qu'il faut être gamer pour se lancer dans le dev, mais on sait
Oui,
jamais.
ça c'est sûr.
Ouais.
Enfin, surtout pour faire son jeu vidéo. Ce qui fait la différence, c'est surtout d'être capable de se mettre à la place du joueur, et ça c'est difficile sans être joueur soi-même.
Est-ce que vous diriez que, peut-être que pour le coup c'est une question pour Tristan qui a développé pour d'autres choses, c'est plus important pour un dev de jeu de connaître lui-même parfaitement son domaine, enfin le domaine du jeu vidéo, que pour d'autres domaines? Je veux dire, si tu fais de la 3D pour un film, t'es pas obligé de connaître, j'imagine, le détail du film, ou dans le cas de Game of Thrones, le détail de
Ouais,
l'histoire. Alors que pour un jeu, si t'es pas un joueur, t'es foutu, quoi.
Alors, je suis pas certain.
Ouais?
Dans un sens, alors moi j'ai toujours été un peu un couteau suisse en fait. Je suis pas très pointu dans un domaine de développement. Je touche à tout et puis si on demande d'apprendre un nouveau langage, je l'apprends. Il y a pas de souci. Enfin, ça me, je suis pas rebuté par tel ou tel langage, sauf quelques-uns sur les langages web, mais ça c'est des goûts perso. Ce qu'on demande souvent en jeu vidéo, c'est effectivement une super expertise dans un domaine, mais je pense que ça peut s'acquérir même en ayant fait du dev en boîte de presta à côté.
D'accord.
L'expertise jeu vidéo, le fait de jouer en fait apporte juste une motivation de plus à vouloir faire un produit qui est bien en fait, à se dire bah voilà, là j'ai fait un code, c'est pas mal, mais je pourrais peut-être l'améliorer un peu. Et du coup, ce petit cran-là, en fait, tu le passes. Mais je pense que c'est un peu comme dans tous les domaines, en fait. Dès que tu as un peu de passion pour ce que tu fais, tu vas essayer de pousser le curseur un cran au-dessus pour pouvoir sortir quelque chose d'encore mieux que ce que tu as produit. Alors que si jamais tu es moyennement intéressé, tu vas faire tu
D'accord.
vas faire ce qui est correct, mais sans aller faire le petit plus, en fait.
D'accord. Donc
Moi, c'est mon avis perso, quoi.
je comprends. Ok, donc, écoutez, lançons-nous dans le cœur du sujet. Vous bossez chez Insane Unity. À un moment, la boîte ferme ses portes. J'aimerais savoir ce qui passe dans votre tête pour vous dire, plutôt que d'aller rechercher un autre CDI,
Ouais.
on va se lancer en dev indé, parce que, dites-moi si je me trompe, mais dans le monde des développeurs, l'idée de se mettre à son compte et de se lancer en indé, c'est quand même partir dans la jungle. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut une sacrée dose de courage. Et bien sûr, peut-être que c'est difficile de trouver un autre emploi entre guillemets stable, mais c'est pas évident non plus de se dire on lâche tout et puis on va faire notre truc à nous. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment? Vous y pensiez depuis un moment? Comment ça s'est produit?
Alors, ouais, vas-y, Yannick.
Je réponds. Je pense qu'il y a en gros deux facteurs qui nous ont, enfin, disons trois facteurs qui nous ont aidés à nous lancer. Le premier, c'est qu'on avait déjà l'idée de jeu. En gros, du temps d'Insanity, on avait anticipé le fait que si le jeu marchait, on aurait à faire un deuxième jeu derrière. Et du coup, on avait réfléchi à des concepts et on avait pensé à celui-là qui nous paraissait hyper intéressant avec plein de potentiel. Et je pense que c'est vraiment plus facile de commencer par avoir l'idée et puis de monter quelque chose autour plutôt que de monter une boîte pour faire du jeu vidéo et après de chercher une idée de ce qu'on va faire.
D'accord. Donc là, vous aviez déjà l'idée qui vous motivait, quoi. Donc c'est forcément, ouais, je comprends que ça puisse s'articuler autour.
Ah oui, complètement. Et puis, en fait, moi, c'était une idée ça faisait assez longtemps que j'avais envie de faire ça et je savais pas trop non plus pourquoi c'était pas déjà fait.
Ouais. Du coup, on va en parler du coup. Finis de me dire les deux motivations supplémentaires ou les deux axes supplémentaires et puis parlons du jeu parce que je pense que les auditeurs seront intéressés également de savoir ce dans quoi vous êtes lancé. Mais vas-y, finis.
Faisons ça. Le truc, c'est que finalement, l'échec du jeu d'Insanity, ça nous a un peu frustrés. Et il y a l'envie derrière ça de réparer un peu ces erreurs-là. On se dit que c'est trop bête, qu'il y a plein de trucs qu'on aurait pu éviter. Et que maintenant qu'on connaît un peu un certain nombre d'erreurs à éviter, c'est le moment de... Enfin, ça nous déblaye un peu le chemin pour nous faire un truc qui a du succès.
Et l'autre facteur... Vous étiez combien chez Insanity ? C'était un dev indé aussi, mais...
C'était un dev, mais on était 10.
On était 10.
Ça fait pas mal. La particularité d'Insane, c'est aussi qu'on avait notre propre moteur. Et ça nous demandait de gros besoins en tant que dev.
Bien sûr.
Parce qu'il faut tout coder. Le moteur du jeu et puis aussi le réseau qu'on faisait nous-mêmes. Donc,
le réseau, tu veux dire le moteur du réseau également, vous faisiez tout à la main?
Oui, on faisait tout à la main.
Ah oui, c'est un choix, c'est un choix étrange. J'imagine. Alors, on l'a pas dit, mais le jeu de Insanity s'appelait Win That War et il est sorti en avril de l'année dernière. Il a pas été hyper bien reçu. J'imagine il s'est pas super bien vendu non plus. Vous avez du coup fait le choix, y a toutes les questions qui vont sauter en même temps dans ma tête, mais du coup vous avez le choix, j'imagine, de Unity pour le moteur ou peut-être de Unreal Engine, mais vous avez pris des middleware, quoi, pour votre nouveau jeu.
Oui, on est une équipe beaucoup plus petite.
Et vous êtes deux, non? Avec deux dans la boîte et puis après peut-être des prestataires, mais...
Alors, on est presque trois dans la boîte.
D'accord.
Plus deux stagiaires.
Ah, quand même, il y a du monde dans le bureau. On peut raconter des blagues à la machine à café et tout.
Ça commence, ouais.
On y viendra, mais même en prenant des middleware à côté, il y a besoin d'une sacrée équipe.
D'accord.
Pour faire des jeux. Du coup, je reviens vite fait sur le troisième facteur. C'est bien que, comme la boîte a coulé, nous, on s'est retrouvés licenciés économiques. Et donc en France, on a un régime de chômage un peu spécial quand c'est un licenciement économique qui nous permet de garder notre salaire pendant un an, ce qui est chouette et ce qui permet de se lancer dans les projets. C'est le moment ou jamais de faire ça.
Bien sûr.
Puisque ça permet de mettre un peu de côté par rapport à un chômage classique et puis de se nous laisser un an en gros pour bien préparer le terrain.
D'accord, donc les trois facteurs. Ce qui est le plus intéressant au final dans ce que tu me dis, pour moi, au niveau développement, c'est que, effectivement, Insanity vous a servi de coup d'essai. Et comme c'était une équipe suffisamment petite, j'imagine que même si vous n'étiez pas impliqué dans toutes les décisions, vous avez suivi toutes les décisions. Et donc, vous avez vraiment pu voir ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché. C'est très précieux, en fait, comme expérience.
Ouais, complètement. On a été hyper impliqué. Enfin, on a vu un peu ce qui pêchait et c'est ça. On est reparti sur ces bases-là pour créer Sentry Games. C'était important d'avoir cette expérience-là. Je pense que ça nous a permis de faire moins d'erreurs, même si on le verra tout à l'heure. Mais on a quand même fait. Il y a des choses que si on avait à les refaire aujourd'hui, on les referait différemment, puisque toute la partie création d'entreprise, on connaissait pas. La partie gestion après d'une équipe et gestion d'un développement, ça oui, mais tout le reste, c'est vrai qu'on l'imaginait pas. J'imaginais pas aussi compliqué.
Ouais. Et justement, toi, Tristan,
ouais.
Bon, Yannick, il était jeune, encore innocent, il s'est dit « Oh, bah, je vais me lancer dans l'indépendant, en indépendant, ça va être sympa ». Toi, tu savais un petit peu plus que c'était la vie d'entreprise, ouais. etc. C'était, est-ce que t'en avais marre ? Enfin, en même temps, bon, même chez Insane Unity, vous étiez 10, donc c'était pas non plus une énorme boîte impersonnelle, mais… Est-ce que tu te disais, je veux saisir mon destin, ou est-ce que c'était alors, vraiment le concept de Célion, on n'a même pas dit le nom encore, mais le concept de Célion qui t'a motivé à lancer la boîte?
Alors moi, effectivement, c'est un peu différent la façon dont j'ai été amené à ça. En fait, au départ, on était trois sur l'idée du projet. Pour revenir très en arrière, depuis que je suis en quatrième, troisième, moi j'ai toujours dit je veux créer ma boîte de jeux vidéo. Et après, bon, je suis passé par les étapes d'entreprise, etc., où je me suis dit non, effectivement, je préfère trouver un boulot peut-être moins intéressant, mais plus peinard, ouais. et pouvoir
l'arrivée
faire des
à l'âge adulte à écrabouiller tes rêves, en fait, c'est ça.
C'est un peu ça où tu dis bah finalement j'aime bien faire du volet, j'aime bien aller boire des bières avec mes potes, donc voilà, tu te dis bon je vais faire autre chose que juste travailler. Mm-hmm. Et puis en rentrant dans le bus avec mon collègue donc Merwan qui n'est plus là aujourd'hui, qui est parti voguer vers d'autres cieux, il me dit ah oh, c'est
attends,
con quand
il
même
est, il est pas on, il est pas il est pas décédé
non il est chez Technicolor maintenant,
d'accord, ok.
il me dit c'est con parce que on perd vraiment des compétences, et puis on aurait pu faire vraiment une dream team, et puis on commence à discuter sur une dream team d'un studio. Mmh. et du coup je me suis dit ah, pourquoi pas essayer de effectivement créer une entreprise, quoi, un studio indépendant. Et donc je savais qu'Yannick avait une idée, mais il nous l'avait déjà présenté et je m'en rappelais plus du tout de l'idée de jeu. Et on a fait une petite réunion chez Merwan où Yannick nous a représenté son projet. Merwan était hyper emballé. Et comme c'était quelqu'un d'assez prudent, le fait que lui soit emballé par le projet m'a un peu réconforté sur le fait que l'idée était viable, parce que je suis joueur, mais pas, je connais pas hyper bien la scène du jeu vidéo. Hein. Je joue par plaisir, sans connaître vraiment tous les domaines.
Ouais, t'es pas
alors
un super grand spécialiste.
Merwan et Yannick étaient plus spécialisés quand même, enfin connaissent vraiment très bien le domaine du jeu vidéo. Et du coup, bah voilà, on s'est lancé dedans un peu comme ça, et c'était effectivement le bon moment, et j'étais prêt dans ma tête, je pense.
D'accord. Mais alors parlons justement du projet, parce que un des facteurs qui m'a poussé à vous demander de venir dans l'émission, c'était effectivement la campagne Ulule, puisque vous êtes ouais. passé aussi par la case Ulule. On parlera des étapes dans un petit instant, mais je vais sur Ulule. D'ailleurs, campagne qui s'est achevée sans succès.
Exactement. Ouais.
Il y a quelques jours de ça, une semaine peut-être.
Ouais, vendredi soir.
Voilà.
On a fait 36%.
Ouais. Et du coup, bon, déjà, on va parler de ça parce que c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans votre tête quand vous le lancez, quand vous voyez comment ça évolue, etc. Mais donc, la campagne Ulule, je regarde la vidéo et l'idée, vous allez me dire si j'ai bien compris de quoi il s'agit et puis m'en parler ensuite, mais pour voir si le concept passe. L'idée, d'après ce que je comprends, c'est vraiment de faire une sorte de série de combats de boss, une sorte de boss rush, où le gameplay serait à mi-chemin entre un World of Warcraft et un MOBA. Donc, dans les prototypes que vous avez fait, c'est de la vue plutôt troisième personne type MMO. Et on a donc différentes classes ou différents héros. Et on va faire des séries de combats de boss qui s'apparentent, encore une fois, dans les prototypes, on a l'impression que c'est relativement proche de World of Warcraft. Donc, c'est plongé au cœur de ce qui est intéressant dans le gameplay de ces jeux-là, dans les raids, dans les donjons, etc. Et enchaîner des séries de boss avec ensuite tous les systèmes qui rendront le truc vraiment attractif sur le long terme. Mais c'est ce que je comprends du jeu. Et en plus, je tiens à le préciser parce que c'est à mon sens un facteur hyper important. Et il faudra que vous nous donniez le nom de la personne qui est responsable de ça. Le concept art de votre jeu est saisissant de beauté. C'est vraiment, il y a deux choses qui sont sympas quand on voit le jeu, c'est le concept gameplay et les graphismes d'illustration. Donc voilà, pour mon impression sur le Ulule, qui a été mon premier contact avec le jeu. Est-ce que ça correspond à la réalité ou je me suis fait un petit peu parti dans mes... Je suis parti dans mes délires.
Non, c'est un peu ça. Du coup, vite fait, pour les concept art, c'est Gilles Duin qui les a fait. Donc c'est,
Gilles, pardon parle.
Gilles Duin. Ah oui, il a un prénom assez peu courant, mais c'est un peu un de nos critères d'embauche. D'être, le stagiaire s'appelle Laura.
D'accord. Mais Gilles Duin, c'est D-U-H-I-I-N ou A-I-N ou...
Non, c'est G-I-L-D-U-I-N.
Ah, D-U-I-N, c'est ouais. Son prénom, Gilles Duin.
Oui, c'est son prénom.
D'accord. Et son nom de famille, c'est quoi alors qu'on puisse le retrouver?
C'est Couronne.
Couronne, d'accord. Gilles Duin.
Il
Couronne,
est sur la page Ulule, okay. Tu le vois.
Il est tout en bas de la page Ulule.
Ah, d'accord, ok, très bien.
On pourra revenir sur son arrivée quand on racontera un peu notre histoire.
D'accord.
Pour le concept du jeu, c'est exactement ça. Notre idée, c'est de recréer un peu la sensation qu'on avait, nous, quand on avait encore le temps de s'investir à fond dans des MMO, de faire les raids, de parvenir finalement à vaincre les boss les plus difficiles, parce qu'on avait travaillé la stratégie pendant plusieurs soirées, qu'on a réessayé 50 fois, et que finalement, quand tout se passe bien, que chacun joue son rôle, qu'on n'oublie rien, on réussit à le battre. Et c'est un super achievement. C'est cette sensation-là qu'on voulait recréer parce que dans les MMO classiques, ça demande pas mal d'investissement. C'est quand même beaucoup basé sur l'équipement.
L'équipement, le farming, le loot. Il y a toute une partie qui est avant de réussir à faire le truc entre guillemets fun. Bon, ça fait partie du jeu, c'est des jeux différents. Mais avant de faire le truc fun, il y a des jours et des semaines de travail, quoi.
Ah bah c'est ça, faut monter le niveau maximum. Et puis ensuite, comme des nouveaux boss sortent régulièrement qui demandent plus d'équipement, faut repasser un peu par cette phase-là à chaque fois. Et quelques boss, même qu'on appelle des gear check, sont là juste pour. Ils sont très faciles, ils sont pas compliqués, mais ils sont là juste pour vérifier qu'on a assez d'équipement pour encaisser les coups, en gros.
Ouais.
Et finalement, ça se base pas mal là-dessus, ce qui est très intéressant en soi, mais ce qui demande pas mal d'investissement. Et donc, on s'est dit que nous, le gameplay en lui-même nous plaisait bien, surtout le fait de mettre en place des stratégies en coopération. D'apprendre les patterns du boss pour réussir à les éviter, et qu'on n'avait pas forcément besoin de caser ça dans un open world et dans un système de farm, et qu'on pouvait justement faire ça à la sauce MOBA. Du coup, tourner ça un peu de façon compétitive, et puis faire que tous les boss soient accessibles directement. Il n'y a pas de notion d'équipement, il n'y a pas de notion de niveau. Donc, toutes les équipes partent à armes égales, et c'est la connaissance qu'on a du boss et l'entraînement qu'on a dessus qui va faire qu'on va réussir à vaincre les modes de plus en plus difficiles.
D'accord. Il y a un mode, entre guillemets, compétitif aussi, où c'est quoi? C'est une course pour battre les... Enfin, peut-être que vous êtes trop tôt dans le développement pour avoir vraiment décidé de ça, mais c'est uniquement du PVE ou il y a aussi un aspect PVPVE où...
Eh bien oui, il y a un mode compétitif. Alors, en plus du mode classique où on fait son équipe et on va battre le boss, et là, il y a un classement en fonction du temps qu'on a mis à battre le boss, on a notre mode compétitif qui est le mode Rift, et qui est effectivement une sorte de PVP-VE où ça va être une course entre deux équipes dans des univers parallèles pour battre un boss. La première qui tue son boss ou la dernière qui meurt a gagné. Et ensuite, chacun des joueurs de l'équipe a une nouvelle compétence dans ce mode-là, qui est le mode trans, qui permet d'immobiliser son personnage dans son propre combat, mais de se matérialiser dans le combat de l'autre équipe, et avec des compétences un peu différentes, d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues pendant qu'ils essaieront de mettre en place leur stratégie.
J'imagine que quand vous avez vu arriver les nouveaux modes de Destiny 2 Forsaken, vous avez dit « Ah mais... ils sont inspirés de chez nous, avec leur mode, c'est le Gambit, je crois.
Ça, c'est ça.
C'est exactement la même chose, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça a été un peu un coup dur. Sur le coup, on a, bah, t'accuses le coup, hein. Nous, ça fait un an qu'on travaille dessus. Le Ulule était lancé depuis 2 semaines. On savait que le 3 allait être compliqué, hein, pour nous au milieu de l'Ulule. Et du coup, Yannick m'envoie la vidéo. Petit coup dur. Heureusement, on est bien entouré. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, je suis un casse-bonbon pour rester poli, et j'ai tendance à appeler les gens et à discuter beaucoup et à leur faire part de ce qui va pas, et du coup bon, j'ai appelé un peu nos encadrants, ceux qui nous ont aidés à arriver jusque là, puisque on est quand même pas mal aidé par des assos ou des structures bretonnes qui permettent d'aider les créateurs d'entreprises. Et donc je les ai appelés, je leur ai dit voilà, on a vu ça nous démoralise un peu, enfin c'est un peu compliqué quoi. Et bon, ils ont été hyper rassurants, ils nous ont dit que ils ont eu des mots comme mais de toute façon vous comptiez pas devenir tout de suite le Destiny 2 et avoir le succès du studio de ce studio. Donc effectivement, c'est vrai que se dire qu'on va tout de suite rivaliser avec des gros, c'est peu réaliste. Et donc ils ont dit c'est bien, il y en a un gros qui a ouvert le chemin, vous êtes sur la bonne voie, restez motivés, ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc c'est vrai que ces paroles des gens autour de nous qui nous ont un peu permis de faire redescendre un peu la pression, de se dire ok bon allez, on reste focus sur ce qu'on était en train de faire, on sait où on va. En plus Destiny c'est pas le même jeu que nous, c'est reste un mode. Et puis ben voilà, c'est un peu aujourd'hui notre fer de lance, en se disant ouais. Ben, il y a des gens qui se lancent dedans, il y a des gros studios qui font le même mode que nous, et qui ont les mêmes des idées qui sont similaires en fait. Donc ben faut s'en servir, et puis c'est qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque quoi.
Ben, c'est marrant parce que effectivement, de la même manière qu'il y a des éléments de MMO mais que vous enlevez tout le trivial du MMO pour vous concentrer sur le gameplay, de la même manière que un boss rush va enlever toute la partie non boss d'un platformer ou un truc comme ça. Ouais. Et ben de la même manière, vous enlevez tout ce qu'il y a autour d'un FPS looter comme Destiny ou d'autres pour vous concentrer sur le combat de boss ou l'aspect compétitif. Finalement, c'est la même chose et c'était déjà le cas avec les MMO, mais je comprends que ça peut ça puisse vous provoquer un moment où vous dites ah merde. En fait, il y a mais c'est vrai que de l'extérieur, moi je me dis plutôt ah bah ça veut dire qu'ils ont compris une tendance de l'industrie, une des possibilités qu'offrent les évolutions de l'industrie avec le online, le machin, le compétitif, semi-compétitif, et vous y êtes mis avec un an d'avance, donc c'est plus un avantage. Et même le truc, j'aurais même tendance à dire, dites-moi si c'est le cas ou pas, mais j'aurais même tendance à dire, du coup, c'est plus facile à expliquer, parce que vous pouvez dire, bah tu vois le mode Gambit de Destiny 2, bah c'est pareil mais en mieux. Ou ce genre de choses, mais vas-y Yannick.
Ouais, faut prendre en compte que assez peu de gens encore connaissent le mode Gambit des
Destiny. Non, bien sûr, je pense à dans un an ou deux ans ou ce que tu vois, c'est pour plus tard, mais
on verra le succès qu'il aura après. Comme on n'a pas du tout le même gameplay que Destiny 2, qui est pour le coup du FPS, alors que nous, bah, on reprend vraiment le gameplay à la World of Warcraft. Mmh. Ça fait aussi qu'on cible pas vraiment le même public et que du coup, on se concurrence pas tant que ça. Ça prouve que, par contre, ça prouve que les gens ont envie de se mesurer sur du PvE, sur du combat de boss et de montrer qu'ils sont les meilleurs à appliquer des strats. C'est ça
ouais,
qu'on
je crois qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Mais bon, alors. Continuons peut-être avec plus le parcours, et je vais rebondir sur ce que tu disais Tristan, tu parlais de ce soutien que t'ont apporté les personnes qui vous encadrent un petit peu ouais. Dans cet instant, enfin à ce moment précis, est-ce que d'une manière générale, à quel point est-ce que ce soutien est important ? Parce qu'on imagine le parcours des indés qui se lancent tout seuls et qui voient comment ça se passe, mais qui sont un petit peu à l'eau sans bouée de sauvetage. J'ai l'impression de comprendre avec ce que tu dis que le soutien et l'encadrement sont importants et sont très importants aussi.
Ouais, alors moi je suis très admiratif, hein, honnêtement, après un an d'expérience là sur la création d'une entreprise, je suis très admiratif des gens qui se lancent tout seuls. Parce qu'effectivement, on se rend compte, et Yannick et moi, on a la chance d'avoir aussi des proches, hein, des parents qui sont hyper présents et qui nous soutiennent. Et ça, c'est essentiel. Et en plus, effectivement, voilà, outre la famille, il y a aussi tout un écosystème. Et nous, c'est Atlant Games, par exemple. C'est une association du Grand Ouest qui regroupe un peu tous les studios indépendants et pas que indépendants, hein, qui aimeraient bien essayer d'avoir des plus gros studios justement, et qui les regroupe sous une bannière en essayant de créer des afterworks, de créer des événements pour rassembler ces gens-là, faire du partage de connaissances et qu'on se sente pas tout seul dans le bain du jeu vidéo. Donc ça, c'est eux, ils ont deux permanents qui sont vraiment dédiés au développement justement de l'association et puis du développement du jeu vidéo indépendant. Donc voilà, eux ils nous ont vraiment beaucoup aidé. On va les voir régulièrement à Nantes pour discuter avec eux. On a des échanges, etc. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a des technopoles. Alors je connais pas. Il y en a un peu partout en France, mais en Bretagne, il y en a trois. Ou quatre, et en fait elles accompagnent toutes les structures. Là, c'est pas que jeux vidéo, c'est vraiment toutes les structures. Elles les aident dans leur développement, dans la création d'un business plan, dans la rencontre avec des avocats, des experts comptables, enfin tout ce qui est la vie de l'entrepreneur assez classique, le parcours que tu dois un peu avoir pour pouvoir créer une structure solide dès le départ et pas partir en biais tout de suite. Parce que y a moyen de, effectivement, soit on sait pas où on va, et c'était un peu le cas au départ, hein, tu sais pas par quoi tu commences, où trouver des financements si t'en as besoin, comment t'adresser, tu veux un local, ben à qui tu t'adresses, etc. Donc tout ça, c'est un peu jalonné aujourd'hui, quoi.
Construction de boîte, où vous savez pas comment ça se passe, et il y a des gens donc qui sont venus vous soutenir, enfin vous aiguiller peut-être.
C'est ça, exactement.
Dans tout ça, ouais.
T'es accompagné, t'es aiguillé, t'es orienté, et ça t'évite de faire les plus grosses erreurs, si tu veux.
Bah justement, parlons de ça. On arrive enfin au cœur du sujet, après une demi-heure. comment ça se passe ? Vous vous dites, vous vous rencontrez à trois ou à deux, finalement, le jour où Insane Unity ferme, et vous dites, bon, allez, on va prendre une semaine pour se reposer, et puis on se lance. Vous vous retrouvez chez l'un ou chez l'autre, quelque part. Qu'est-ce que vous faites le lendemain, en fait ? Une fois que vous dites, ça y est, on est parti. Quelles sont les premières étapes, les premières difficultés dans les, j'ai envie de dire les premiers jours, peut-être les premières semaines, mais vraiment les premiers jours, quoi. Par quoi on commence ?
Je ne sais plus à quel moment on s'est mis au côté administratif, mais de mémoire, on a vraiment commencé par essayer de remplir les trous dans le game design auxquels on n'aurait pas pensé. Bien analyser le concept et voir quels problèmes ça pourrait présenter et comment on les résout. C'est peut-être une des heures qu'on avait faites chez Insane Unity, c'est-à-dire qu'on improvisait un petit peu le game design. On avait le concept très très général de Wings at War qui était de faire un MMO RTS, un jeu de stratégie, mais on n'avait pas grand-chose de plus. Et au final, c'était important pour nous d'avoir un projet bien ficelé de ce côté-là, parce que en tant que studio indé, encore plus, la prod, c'est pas facile d'arriver au bout quand t'as une petite équipe. Et si dès le départ, il n'y a pas un noyau de jeu très solide, qu'ensuite on va pouvoir affiner, mais qu'on peut quand même montrer au public comme ça, on s'en sort pas finalement. Du coup, il faut un game design cohérent dès le début, et je pense que pendant l'été, on a surtout fait ça, et on a commencé à regarder Unity aussi pour faire notre proto.
Ouais, c'est ça.
Donc les premières étapes, c'est pas d'aller trouver un bureau et acheter les ordinateurs pour travailler. Enfin, acheter les ordinateurs, peut-être que vous utilisez les vôtres, mais c'est pas ça les premières étapes. Les premières étapes, c'est vraiment un papier, un crayon à deux, à se mettre la tête dans les mains et comment est-ce qu'on va construire le cœur du jeu, quoi.
Ouais, c'était ça. Je pense qu'on n'a même pas pris de semaine de repos. En fait, on avait déjà commencé un peu avant à cogiter. Et c'était ça. C'était, tiens, on a une idée. On prend Unity, est-ce que c'est faisable rapidement? Oui, non, ok, est-ce que c'est pertinent? Et en fait, je pense que tout notre juillet-août, là, nous, on a été licencié en juin, et juillet-août, ça a comblé, comme dit Yannick, le trou dans la raquette du game design en se disant, est-ce que là, on va pas trop loin? Est-ce que c'est pertinent? Et rapidement quand même, on s'est retourné vers Atlant Games en fait. On a appelé les deux permanents qu'on connaissait en fait de chez Insane Unity. Et donc on les a appelés, on leur a dit est-ce qu'on peut pas se faire une réunion et vous rencontrer, on a une idée, on voudrait vous la proposer. Et eux, ils nous ont déjà orienté en disant attention, là vous partez sur une production qui est longue, vous avez évalué que ce sera à peu près tant de temps, c'est peut-être trop long, réduisez. Faites un focus là-dessus, etc. L'idée est bonne, mais il y a ceci, cela qui peut poser problème. Et donc ça nous a orienté dès le départ, au moins pour le début, sur le game design du jeu. Parce que je pense que c'est ça, en fait. Hein, le plus gros point important quand on se lance, c'est que faut préciser son idée, en fait. Être sûr qu'on part pas dans tous les sens.
C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'aurais pensé au début de la... Enfin, c'est très, très sain. Mais moi, je pense tout de suite à... lancement de boîte, donc aller voir les banques, à la limite, c'est la première chose à laquelle je pense. Évidemment, en y réfléchissant deux secondes, pour aller voir la banque, il faut avoir quelque chose à lui montrer, donc peut-être qu'il faut faire un peu de travail avant déjà. Mais ouais, donc première étape précisée. Pardon, je vous interromps. Vas-y, non, continue.
Non mais t'as raison, les banques. En fait, les banques voudraient bien que t'aies déjà le jeu et que t'aies plus qu'à servir. Mais c'est un peu ça qui est difficile aussi en jeu vidéo, c'est que faut réussir à concilier l'entrepreneuriat classique avec du coup toutes ces problématiques de financement, de locaux, d'embauche, et en même temps le côté artistique du jeu où en fait on aurait envie de juste faire son jeu, mais malheureusement il y a plein de trucs à côté, et ça les gens sont pas forcément complètement formés là-dessus. C'est pour ça aussi peut-être que ça motive plein de structures à se mettre en place.
Du coup, tu dis il y a plein de choses à côté, c'est quoi ces choses à côté et quand est-ce qu'elles commencent à intervenir? Combien de temps vous avez vraiment affiné le cœur, enfin le concept, et à quel moment est-ce que les autres choses ont commencé à arriver sur votre bureau, quoi?
Alors, en fait, il y a eu un salon, il y a eu plus de deux choses. La première, c'est que on a eu l'opportunité d'aller faire une formation sur le pitch. Alors, le pitch, c'est comment présenter son projet en 20 secondes, 3 minutes, 10 minutes devant des jurys, banquiers, business angels ou fonds d'investissement. Donc, on a eu l'opportunité de faire ça dans une des technopoles, justement. Donc ça c'était le premier pied à l'étrier où là on a commencé un peu à rencontrer l'écosystème de créateurs d'entreprises. La seconde chose c'était le salon Entreprendre dans l'Ouest, qui est un salon d'entrepreneurs en fait, où pareil tu rencontres un peu, là tu peux rencontrer des banquiers en mode plutôt décontracté, tu leur présentes pas, tu pourrais arriver avec un business plan, mais globalement ils sont pas là, ils sont plutôt là pour te dire un peu comment ça va fonctionner, etc. Donc ça c'était les deux choses qui nous ont permis de démarrer, et ça a été septembre-octobre quoi. Donc tu vois c'est arrivé assez rapidement finalement, et à partir
donc,
de
pendant
là,
deux trois mois vous étiez
quoi.
Juste pour que je comprenne, ouais. Pendant deux trois mois vous étiez juste chez l'un et chez l'autre à deux à penser au gameplay du jeu, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Ah oui, d'accord.
On faisait un prototype avec Unity. L'avantage, c'est que ça permet de faire ça très
rapidement.
Ah,
donc vous avez commencé à mettre en place le truc, à commencer à coder assez vite quand même.
Oui, immédiatement en fait, puisque c'est avec Unity, ça va tellement vite que dès qu'on a une idée, on peut la tester là-dessus. Et nous, on est deux devs finalement. Donc grâce à Unity et grâce au modèle gratuit qu'on a pu trouver sur Internet, on pouvait nous commencer pas mal le jeu en version moche. Jusqu'à ce qu'on ait les moyens de recruter notre équipe artistique. Parce que c'est pour ça qu'on a besoin de fonds.
D'accord. Ok, donc septembre à peu près. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, septembre-octobre, quelles sont les évolutions du truc? Là, ça commence à devenir sérieux. Est-ce que c'est là que vous commencez à aller voir les banques déjà? Ou je ne sais pas pourquoi je suis focalisé sur les banques.
En fait,
mais c'est
là où
du truc,
effectivement ça devient sérieux et Et on s'est dit il faut qu'on se fasse accompagner quoi. Il y a pas à tortiller. On peut pas y aller tout seul. On sait pas par où commencer. Il y a trop de choses à faire. Donc on a cherché un accompagnement. On a eu la chance de pouvoir être accompagné par une des technopoles des Côtes d'Armor qui nous a du coup avec pas mal d'entretiens, enfin de discussions en fait, on a établi un premier business plan vraiment en termes de chiffres. On a eu l'opportunité du coup de rencontrer d'autres entrepreneurs du jeu vidéo sur Rennes qui nous ont aussi orientés sur la marche à suivre. Et ben petit à petit, tu commences par voilà faire tes chiffres, voir si ça peut coller, quels sont les fonds que tu vas devoir lever, quelles sont les aides que tu vas pouvoir avoir, commencer à rédiger un business plan texte en fait, parce que tu peux pas aller voir une banque comme ça sans avoir quelque chose de très carré. Et en fait, les banques, on les a démarchés vraiment que depuis 2 mois quoi, 3 mois à tout casser. Parce qu'on
Maintenant,
n'avait
tu veux
rien
dire,
de.
il y a 2 mois ou 3 mois, là,
Ouais,
c'est... Ah oui,
c'est
d'accord.
depuis mai en fait. Avant, en fait, on pourrait. Hein, y a plein de façons de faire si tu veux. Nous, notre accompagnant opte pour une stratégie qui est plutôt. D'abord, tu établis ta stratégie de financement. Donc, il faut vraiment bien évaluer à quel moment tu vas voir quoi, tu fais. Quelle levée de fonds, quels sont les leviers que tu vas activer petit à petit, et tu avances comme ça étape par étape, tu te fais ça sur 1 an et tu réfléchis un peu comment tu vas monter ton plan de financement, et après tu y vas. Après, ça c'est une stratégie qui moi me convenait pas mal. Ouais, je dis moi parce qu'on s'est réparti en décembre en fait avec Yannick, on s'est réparti les tâches. On a dit écoute Yannick, tu t'occupes de la partie dev parce que moi j'étais plus sur la partie réseau, enfin trouver des investisseurs, trouver des gens qui pour s'entourer, et puis la partie administrative. Et du coup, j'étais moins dans le code et j'avais tendance à casser des trucs que Yannick avait fait. Enfin, c'était pas terrible. Donc, du coup, on s'est réparti le boulot. Il fait la partie tech et moi, je fais la partie gestion. Et du
J'imagine,
coup.
je t'imagine arriver dans la chambre et dire, bon Yannick, on va faire les, chacun va se répartir les rôles. Moi, je vais arrêter de toucher un petit peu au code. Et là, Yannick qui hoche la tête. Ouais, ok, ça me paraît bien. Arrête de toucher au code, ça sera pas mal.
C'était un peu ça.
Enfin, surtout que moi, échappé au réseau, j'en avais bien envie aussi.
Oui, j'imagine, ouais, j'imagine.
Donc voilà, du coup, moi, je suis assez, j'aime bien que les choses soient bien planifiées et assez carrées. Et du coup, ça me convenait bien comme façon de faire de pas taper tout azimut sur toutes les banques, les business angels, les investisseurs. Enfin, d'avoir plutôt quelque chose de structuré et étape par étape. Alors c'est vrai que quand on en discutait avec les autres studios indépendants, ils me disaient mais t'as pas demandé l'aide à machin, t'as pas demandé l'aide à truc, comment ça se fait, mais va chercher. Alors je rappelais mon conseiller à Lannion, Benoît, comment là on m'a dit qu'il faut que j'aille chercher ça. Il me fait attends, si tu vas chercher telle aide, ça te coupe telle autre aide, du coup c'est plus intéressant que tu te focalises d'abord sur celle-ci, etc. Donc on a vraiment bien structuré les choses. Et ça nous a permis d'avancer petit à petit. Et donc voilà, les banques sont arrivées plutôt tard parce que pour aller voir les banques, déjà, il faut que tu aies ta société. Et nous, on pouvait pas créer la société avant fin juin, pour des raisons administratives dues à notre statut de licencié économique. Et
D'accord.
puis ensuite, il faut vraiment quelque chose de bien carré. Et là, nous, on le voit déjà, hein, rien qu'avec ce qu'on a, ce qu'on propose, c'est très compliqué. Donc voilà.
Mais pour
Et c'est
alors
pour
vous
ça
en êtes
que...
Du coup,
Vas-y, vas-y.
vous en êtes où du développement, parce que tu dis avec ce qu'on a, c'est...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Compliqué, mais ça fait 1 an que vous bossez dessus, sur le développement et sur le prototypage. D'après ce que je comprends, vous devez quand même avoir quelque chose, non?
Ouais, il y a le prototype jouable. En gros, un autre des atouts de notre jeu, c'est qu'on a un éditeur de boss. Finalement, les boss de MMO, c'est assez simple. C'est des scripts où tous les temps de seconde, il va lancer telle compétence. Et donc, ça s'adapte bien à en faire un éditeur et à laisser les gens faire leur propre jeu. Mais du coup, quitte à faire un éditeur, autant en profiter nous-mêmes pour coder nos boss. Et c'est pour ça qu'on a commencé par ça, en gros.
Ah, tu veux dire que vous avez un éditeur pour que les joueurs puissent générer leur propre contenu?
Oui, c'est ça. En fait, ils peuvent reprendre nos modèles de boss, mais les scripter comme ils veulent. Donc, en changeant un peu les mécaniques du combat. Okay. Et là-dessus, c'est le plus libre possible. Donc, ils peuvent faire des boss un petit peu tricky. Ce qu'on aime bien dans les MMO.
D'accord.
Enfin, voilà. Ça, c'était le gros du boulot. Mais maintenant que c'est fait, là, on est dans une étape assez avancée où on peut créer plein de boss et plein de classes avec l'éditeur et commencer à tester tout ça auprès des joueurs. Et là, on attaque niveau dev le mode Rift, justement.
D'accord. Donc là, vous avez le mode PVE qui est fonctionnel, mais d'après ce que je comprends, c'est fonctionnel avec sans assets artistiques. C'est-à-dire que vous êtes toujours avec des bonhommes tout ronds, sans texture, sans modèle 3D spécifique, etc.
C'est ça. Sur la page Ulule, en fait, on a une vidéo. Alors tout va être transféré sur notre site, hein, mais il y a une vidéo de gameplay où on voit la tête des personnages qu'on a utilisés, qui sont des espèces de personnages fil de fer, en fait.
Mais tu dis un truc. Excuse-moi, Yannick, je t'interromps encore, mais tu dis un truc. Ah, tout va être transféré sur notre site. Qui fait le site dans la boîte? Vous lancez. Il y en a un qui code. Vous parlez du concept. Il y en a qui appellent les encadrants. Il y a quelqu'un qui doit faire le site, il y a quelqu'un qui doit designer le logo de la boîte, il y a quelqu'un qui doit choisir le nom de la boîte. Enfin, choisir le nom, vous pouvez le faire ensemble, mais c'est toi qui as fait le site ou...
Le site, c'est moi, parce que, en fait, on s'est dit lequel des deux a le enfin, on aime pas le web tous les deux. Et lequel aimait le moins, en fait.
D'accord.
Et du coup.
Lequel détestait le moins, en fait.
Voilà. Et du coup, j'ai dit, bon, écoute, j'en ai fait quand même pas mal parce que j'ai administré un site internet de jeux de rôle en ligne pendant des années. Mmh. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, je fais le site rapidos. Mon frère est dedans, donc il a pu m'aider si j'avais des bugs. Et donc voilà, donc on a fait un site vitrine très classique, hein. On voulait pas se prendre la tête, mais il nous fallait juste quelque chose pour que si les gens si on file le site, que les gens aient les liens en fait essentiels, Discord, Twitter, etc.
D'accord.
Donc c'est ça, voilà.
Ok. Donc là on est à septembre, octobre. À quel moment arrivent les difficultés, les bonnes et les mauvaises surprises, en fait? Est-ce que sur ces premiers, on va dire sur 2017 jusqu'à la fin de l'année, quelles ont été les choses auxquelles vous attendiez qui sont bien passées, auxquelles vous attendiez ou vous attendiez pas qui sont mal passées peut-être?
Alors les choses qui sont bien passées, c'est le développement du prototype. C'est allé assez vite. On a vu que c'était faisable, qu'on avait des outils qui pourraient nous permettre d'aller loin et rapidement.
Je vous interromps à chaque fois. Je suis désolé, mais il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Vous parlez beaucoup justement de Unity. À quel point est-ce que c'est plus facile et à quel point c'est facile en utilisant ce type de middleware? Est-ce que c'est du genre, vous disiez, mais putain, pourquoi? Ça aurait changé le destin de Wind at War si vous aviez utilisé ce genre d'outil à l'origine? Ou à quel point ça change la vie du dev? Ouais.
Honnêtement, je pense que c'est un facteur 10 sur le temps de dev que ça demande. Mmh. Parce que finalement, coder son moteur, à part le fait que ce soit assez long et un peu compliqué... Après, il faut le maintenir, il faut régler les bugs. Et finalement, quasiment à chaque fois qu'on voulait coder quelque chose, on se rendait compte que ça allait chercher très très loin et que tout n'était pas forcément méga propre. Ce fait qu'on passait énormément de temps à réécrire des choses et que ouais, on mettait vraiment 10 fois plus de temps à coder le moindre truc.
L'image qu'on donne... Pardon, vas-y.
Oui, avec Unity, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est tout le logiciel est orienté vers ça, en fait. Permettre d'avoir des trucs, des prototypes en deux clics, du coup, des trucs un peu moches, mais ça permet vraiment d'avoir un retour direct sur le jeu, de le tester immédiatement. Et ça, c'est très précieux dans le jeu vidéo.
C'est, l'image qu'on donne souvent, c'est un ébéniste, par exemple. Si c'est un super artisan qui passe 10 heures sur chaque morceau de bois, peut-être qu'il va faire ses propres outils. Mais sinon, tu vas pas toi-même faire ton marteau, tes clous, ton raboteur. C'est des outils que tout le monde utilise. Tu vas peut-être prendre les bons pour faire du bon travail. Mais un ébéniste va pas faire lui-même tous ces outils-là. C'est un petit peu le même type de philosophie ?
C'est un peu ça, ouais, parce que l'ébéniste, même s'il bidouille un marteau, il va peut-être pas être hyper solide. Et nous, c'est pareil, ouais. Je me sens pas de coder un meilleur moteur que Unity,
ouais,
tout d'accord. seul en moins d'un an. Je vais leur faire confiance et les laisser faire. Pareil alors, pour le réseau, on utilise ouais. autre chose. Et en plus de gagner énormément de temps, ça nous permet une crédibilité au niveau du code qu'on n'aurait pas si je devais tout faire tout seul.
Yannick ?
Alors, chez Insane Unity, la problématique était un peu différente, c'est que leur levée de fonds a été faite sur leur moteur maison. Et ça, ils ont vendu de la tech, en fait. Enfin, ils ont proposé de la tech. Là, nous, on propose vraiment un jeu vidéo. Donc, l'orientation était un peu différente. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous, en tant que proposer un jeu vidéo auprès d'une banque, ça s'entend pas bien, c'est compliqué. Il faut vraiment se battre pour proposer un outil technologique qui dit on va concurrencer les Unity, les Unreal Engine, on va proposer un moteur de 3D pour la réalité virtuelle, etc. On a beaucoup de R&D, bah ça auprès d'une banque et d'investisseurs, ça passe beaucoup mieux parce qu'ils arrivent à appréhender plus facilement qu'il y a vraiment de la R&D. Pour un jeu vidéo, ils le comprennent moins bien. Donc voilà, faut quand même dire ça, c'est que Insane Unity est parti sur un axe. Ils faisaient pas vraiment un jeu, leur business plan, c'était on propose un nouveau moteur de jeu en fait.
D'accord.
Voilà. Donc la démo technique et Windows 3. C'est différent.
Ouais, je comprends, d'accord. Et effectivement, je peux comprendre que en plus quand tu fais un outil de développement, finalement, c'est très
ouais,
différent.
C'est ça.
Si tu fais un outil de développement, tu as 4-5 concurrents, même s'ils sont importants. Quand tu fais un jeu, il y en a quelques milliers qui sortent par an. Donc, on va dire, qu'est-ce qui fait que je vais devoir te donner de l'argent à toi plutôt qu'à un autre ou à personne, quoi.
C'est ça, exactement.
Donc, raconte-moi un petit peu les grandes étapes de l'arrivée au... Divisons plutôt que la fin de l'année arbitraire, le début du Ulule. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a perdu jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à lancer une campagne de crowdfunding et pourquoi vous avez choisi finalement de lancer cette campagne ?
C'était dans. Je parlais tout à l'heure de la stratégie de financement et ça en faisait partie. En fait, c'est assez simple. Hein, on a fait le calcul de tout ce qu'on avait comme argent, de combien il nous fallait et on s'est rendu compte qu'on avait un trou dans la raquette. Il fallait combler ce manque. Et donc, plusieurs solutions. Soit on va voir des business angels, c'est compliqué. Au moment où on a besoin de cet argent, c'est compliqué. On n'est pas encore prêt. Fonds d'investissement, faut oublier aussi. Et puis, les aides, les subventions, etc., peuvent pas arriver puisqu'on n'a pas encore créé la société. Donc, il reste le crowdfunding. Et le crowdfunding dans le pur sens crowdfunding, pas dans le sens crowdfunding Kickstarter où le jeu est déjà fini, il y a déjà 50 000 personnes qui y jouent et on se fait juste un coup marketing.
Ouais. Nous, on voulait vraiment... campagne de précommande, quoi.
Ouais, c'est ça. Nous, on avait besoin de cet argent-là pour... Et aider et combler le trou qui nous manquait. Et puis on sait aussi que c'est un gros coup marketing parce que ça fait connaître le jeu. Donc ça arrivait. Il fallait qu'en juin on mette un crowdfunding en place pour lever 20 000 euros qui nous aurait débloqué 20 000 auprès des banques, enfin d'une banque, notamment la BNP, qui nous comblait les 40 000 qui nous fallait. Donc c'était assez assez simple. Hein, t'as besoin d'une certaine somme, tu vas voir si tu peux l'avoir sur le crowdfunding. Ça te coûte pas grand chose, un peu de préparation en amont, beaucoup de temps. Ça on avait peut-être moins bien évalué, mais beaucoup de temps d'investissement pendant le crowdfunding. Mais fondamentalement, financièrement, c'est pas non plus on a perdu un peu, mais bon, c'est un mal pour un bien puisqu'on s'est fait connaître.
La campagne de crowdfunding, effectivement, elle s'est arrêtée à 7000 euros à peu près. Vous aviez demandé 20 000.
Ouais.
Mais je vous écoute et j'ai un peu l'impression que en fait, dans votre cas particulier où vous aviez eu entre guillemets, la chance d'avoir un licenciement économique qui vous permettait de travailler pendant un an avec une relative sécurité. Mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est assez cool, quoi. J'ai pas l'impression que vous me dites « Ah ouais, ça a été dur, on a dû aller sur tel et tel truc, on a fait tel et tel truc. » Dis-moi si je me trompe, et je suis sûr que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était sympa, c'était cool, c'était pas trop trop dur parce que vous avez trouvé les gens qui vous accompagnaient. Est-ce qu'on se fait une image un peu fausse des tout débuts du lancement du Dava? Après, avec la sortie du jeu, la concurrence, le fait de se faire connaître, c'est peut-être autre chose. Mais les débuts de la conception d'un jeu, est-ce qu'on a une image fausse de ce que ça représente quand on se dit c'est galère, il faut, on se fait taper sur la gueule tout le temps et on n'arrive à rien faire? Est-ce que c'est vraiment aussi... j'ai envie de dire cool que l'impression que tu m'en donnes maintenant ou pas?
Alors nous, le fait d'être au CSP hein, pendant un an, ça nous a rendu effectivement le...
C'est quoi le CSP, cool, pardon hein.
Enfin, c'est le chômage amélioré, quoi. Ça nous a rendu le début d'aventure plutôt cool. Beaucoup de boulot, hein. Enfin, c'est moins de pression parce que on n'a pas encore les banques. Le couteau sous la gorge de devoir trouver des fonds rapidement n'arrive pas tout de suite. On a le temps de vraiment préparer. Et c'était ça, en fait, qui nous a permis de vivre le début plutôt sereinement. C'est que tu peux préparer vraiment et structurer ton projet de façon hyper carrée. Et d'ailleurs, quand on a, là, il y a quelques semaines, on a été présenter nos projets pour des prêts personnels, etc., liés à la société. On a été hyper bien reçus. Les gens ont dit qu'on avait, enfin, que le projet était top, que tout était hyper carré, bien clair, notre discours était rodé. Donc, tout ça, c'est parce qu'on a eu un an, effectivement, de chômage où on a pris le temps de faire cette préparation. Là, en ce moment, je t'avouerais que c'est beaucoup moins cool. Là, si on parle de depuis la fin du crowdfunding, je suis beaucoup moins dans le « Ah, c'est cool, ça s'est bien passé », etc.
Ouais. Et donc, bah, venons-en justement à ce crowdfunding, en notant que ce type de... Enfin, le chômage amélioré, comme tu l'appelles, effectivement, ça peut donner l'opportunité à des gens de se lancer dans de nouvelles aventures. Vous arrivez au crowdfunding. Moi, à chaque fois que je vois des crowdfunding avec des sommes du type... 10 000, 20 000, 30 000 euros, je me dis, ouais, enfin, ils sont gentils, mais 20 000 euros, ça va les amener où, quoi? Parce que ça te donne un petit peu d'argent. D'une part, il y a l'argent que prend Ulule ou la plateforme que vous utilisez. Ouais. Après, il y a les impôts à payer dessus. Il y a peut-être des... Si vous voulez vous payer, bon, là, vous n'avez pas de boîte, donc j'imagine que vous mettez l'argent qui reste dans la poche sans payer les charges sociales, mais il y a quand même, après, les impôts à déclarer. Et puis, légalement, ce n'est pas complètement établi la manière dont ce genre de choses marche. Quand on n'a pas de boîte, moi, je parle à mes soutiens sur Patreon. Moi, il y a la boîte, donc tout passe par le truc établi, mais c'est un petit peu plus compliqué quand on se lance sans la structure. Mais 20 000 euros, ça vous fait tenir, je sais pas, ça fait tenir quelques mois, mais c'est vraiment l'idée d'étendre la lifeline en anglais. D'ailleurs, vous avez choisi de faire votre Ulule en anglais, ce qui est un choix, enfin, j'imagine, pour toucher un plus large public. Mais les 20 000 euros, ça vous aurait amené du répit sur combien de temps? Parce que moi, ça me paraît pas très long, quoi.
Non, alors c'est pas très long du tout, ouais. C'est en fait, c'est ça le problème, c'est que on pouvait pas demander plus. Si tu veux, le besoin, il est bien plus élevé que ça. Mais il faut faire étape par étape. On pouvait pas demander. On l'avait fait chez Insane Unity, un Kickstarter à 40 000 euros qui débloque aussi beaucoup de choses, mais sauf que on n'a pas les reins de le faire. Et malheureusement, les plateformes te freinent aussi. Hein. Clairement, tu vas voir Ulule, ils te disent attention, 20 000 euros c'est beaucoup trop. Il faudrait que vous demandiez 5 000. On leur dit oui, mais 5 000 un jeu vidéo, personne n'y croit. Tu vois. Et d'ailleurs, ce que tu as dit sur ton tweet, il était très juste et je m'en sers aujourd'hui comme argument en me disant voilà, il y a des gens qui nous disent mais 20 000 euros, vous faites pas un jeu avec, pas un jeu 3D. Et c'est clair.
Je me souviens plus de ce que j'ai dit sur mon tweet.
Ouais, mais t'as dit j'espère qu'ils ont une idée derrière la tête, parce qu'avec 20 000 euros, la question que tu me poses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et ouais, donc en fait, c'était, il nous manquait ces 40 000 pour pouvoir débloquer une aide, en fait, une subvention de l'État pour faire du jeu vidéo. Que là aujourd'hui, on demande 100 000 euros au CNC, donc le Centre National du Cinéma. Et donc en fait, il nous faut que nous on apporte 100 000 aussi. Et donc il nous manquait 40 000 dans l'équation. Donc
mais les 60 autres 000, c'était les banques, c'était des
non, c'est nous.
C'est votre argent à vous, c'est vous qui investissez.
Ouais, c'est nos proches, c'est des voilà.
Du love money.
Vraiment, ouais, du love money. Donc c'est ça en fait, ces 20 000 là, c'était le seuil qu'on se disait qu'on était potentiellement capable d'atteindre tout seul en tant que deux petits indépendants dans leur bureau rennais. On s'est dit 20 000, ça paraît atteignable, même si c'est énorme, ça paraît atteignable. Et en même temps, ça reste quand même, c'est une petite somme, mais ça reste un peu crédible pour un jeu vidéo où on se dit pas avec 5 000 euros, ils vont nous faire un jeu en 3D en réseau, quoi. 20 000, c'est déjà des sommes où tu peux te dire, bon, effectivement, tu tiens pas longtemps, mais il y a des choses, peut-être des choses derrière qui permettent d'aller plus loin, quoi.
Et voilà. Du coup, vous lancez le Ulule, vous voyez comment ça se passe. J'imagine que les premiers jours, vous savez que si ça commence pas à monter, à moins qu'il y ait une sorte de miracle, ça va peut-être pas arriver. Mais en même temps, vous essayez de vous faire connaître, de vous faire entendre. Comment vous le vivez, ça? Qu'est-ce que vous faites? Le quotidien, c'est quoi dans le lancement de cette... Finalement, c'est le moment où vous vous lancez dans le public, ce Ulule.
Bah, du coup, la com, c'était avec le côté gestion, c'était un peu la partie qu'on connaissait pas très bien. On sait qu'il fallait pas faire comme Insanity pour le coup, qui avait un peu sous-estimé cet aspect-là. Mais finalement, le crowdfunding, c'était un peu l'opportunité pour nous d'essayer tous les com qui étaient à notre portée. Du coup, des articles, des interviews, des streams et de la pub sur les réseaux sociaux aussi. Et puis de voir un petit peu l'impact que tout ça avait en fonction de l'argent qu'on investissait dedans. Finalement, on s'en est pas mal sorti puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent à mettre dedans.
Mais comment vous faites concrètement ? Du coup, Tristan, puisque c'est toi qui gères ce genre de choses, comment vous faites concrètement ? Vous avez une certaine somme à mettre en marketing finalement, mais à côté de ça, vous devez faire un boulot de RP, quoi. Vous devez appeler les magazines, essayer d'appeler peut-être des petits streamers ou des petits youtubeurs, leur dire regarde, j'ai mon jeu, il a l'air sympa. D'ailleurs, appuyé par les concept art de Gilles Duin. Comment vous l'avez rencontré du coup? Vous me disiez qu'il y avait une histoire marrante derrière, mais...
On fait une grosse digression. Première chose qu'on a appris, un conseil qu'on a retenu quand on a fait toutes les meet-up et les choses comme ça sur l'entrepreneuriat, c'est il vous manque des compétences, entourez-vous. Créez des associations, essayez de trouver un collaborateur, etc. Donc nous, au départ, on s'était dit dès quasiment septembre, il faut qu'on parte à trois, en fait. Il faut qu'on crée une association avec trois personnes, nous deux plus un artiste, et donc on a cherché un artiste pour bosser avec nous. Et puis bon, on avait trouvé quelqu'un, et jusqu'en avril, en fait, de janvier en avril, on avait quelqu'un, et finalement bon, en termes d'état d'esprit, ça ne collait pas, donc la personne est partie et on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, sans personne. Et par chance, je suis entouré de beaucoup d'artistes, par des amis et des gens qui travaillent dans des studios de films. Et on a rencontré Gilles Duin. Alors ça nous a coûté deux ou trois pintes et deux heures de notre temps. Et en fait, il nous a présenté le projet. On était en mode, on fait faire des dessins, des crowbars. On leur a dit voilà, nous on a notre personnage c'est le gorille. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un essai? Donc on avait contacté Cyril Pontet des Chroniques de la Lune Noire, le dessinateur des Chroniques de la Lune Noire. Une BD aussi, donc on a eu plusieurs dessinateurs qui nous ont fait des essais, et puis Gilles Duin nous a renvoyé un dessin en disant bon, en fait toutes les références que vous m'aviez filées, je m'en suis pas inspiré, ça m'intéressait pas, je trouvais pas ça intéressant, je vous propose ça. Et en fait il nous a proposé le gorille et on a dit mais c'est top, le rendu est ouf, en plus ça correspondait au style que lui faisait tous les jours, en fait, enfin c'est son style de dessin, quand on regarde son book c'était ça. Et on s'est dit bon, tant pis, on sait que ce genre d'artistes ils veulent pas être rentrés dans une société, mais on le prendra en freelance, il y a pas de souci, ça a l'air, c'est vraiment top ce qu'il fait. Là-dessus, il a continué à nous envoyer des dessins alors qu'on lui avait pas demandé. Il a dit oh tiens, j'ai bossé sur tel personnage, etc. Et puis rendez-vous dans un bar le mois d'après, on rediscute, on lui dit écoute, nous on veut bosser avec toi, on est prêt à te prendre en freelance. Il fait mais attendez, moi si vous me proposez un boulot à plein temps en cet été, je signe, quoi. D'accord. Et on s'est regardé avec Yannick, on fait Bah oui, nous on veut, c'est ça qu'on veut. Et voilà, et du coup, depuis avril, il est avec nous et il sort des dessins à la chaîne là pour le crowdfunding. Il en a sorti plein
pour peupler le crowdfunding. C'est vraiment un pilier de la communication, je pense, parce que ça donne un attrait tout de suite palpable. Du coup, je vous pose des questions peut-être un petit peu difficiles, mais du coup, tu dis boulot à plein temps, ça veut dire que vous le payez depuis avril? Il est rentré en tant qu'associé ou comment ça se passe?
Non, depuis avril, il est bénévole.
Ah oui, d'accord.
Il avait la chance d'avoir un peu de chômage aussi. Et en fait, là, on le recrute, son chômage termine au 1er août. Du coup, on lui fait un CDI pour le 1er août. Et ça, on le paye avec les fonds qu'on a, le Love Money, en fait. Voilà.
D'accord, ok, très bien. Et du coup, revenons à nos moutons. Le Ulule se lance. Comment ça se passe pour la communication, contacter les gens, l'excitation, la déception, peut-être
Alors, comme disait Yannick, on n'y connaissait rien. Du coup, moi j'ai contacté. Enfin, en fait, tu prends ton téléphone, hein, c'est assez facile. Hein, tu essaies de récupérer les contacts. Je commence à avoir beaucoup de réseaux. J'ai appelé tous les gens de mon réseau en disant est-ce que t'as pas des contacts, West France, Telegram, Virgin Radio, la télé TVR, donc c'était la télévision rennaise. Enfin voilà, donc je finis par avoir quelques contacts. Je décroche mon téléphone, j'appelle, j'envoie des mails. Ça finit par toucher. J'ai du coup Virgin Radio Rennes qui me fait une interview. Une autre radio, et puis on va à Paris, je rencontre quelqu'un et il me dit tiens, je connais un streamer qui s'appelle Elstrif, il fait du stream pas trop cher pour les indépendants. On discute avec lui, ça accroche, on lui paye la prestation, on fait 2 heures de VOD avec lui.
Tu sautes tu le mentionnes de manière très très anecdotique. Mais vous lui payez la prestation, c'est-à-dire que c'est un stream payé que vous avez fait.
Oui, c'est un stream payé, exactement. Oui, et c'est justement, en fait, j'allais y venir. En fait, lui nous fait découvrir comment marche le... j'ai vraiment bien accroché humainement avec lui. Il est vraiment gentil et il a pris du temps derrière pour nous expliquer comment Twitch marchait, comment la plateforme fonctionnait et surtout comment le monde des Twitchers fonctionnait. Et là, on découvre un monde où en fait on s'est losé. C'est pas comme ça qu'on aurait dû s'y prendre dès le départ. On est trop tard pour rectifier le tir. Mais bon, il nous apprend comment marche Twitch, qu'est-ce qu'il faut faire et donc on se rend compte qu'effectivement la fin va être compliquée parce qu'on n'a pas fait le bon démarrage. Le chemin pour arriver était pas le bon, mais voilà, on n'avait pas de, on le connaissait pas avant, donc
ça aurait été quoi le chemin pour arriver du coup? Parce que tu me dis Elstrif, pardon, je le connais pas, mais généralement pour des devs indés, c'est un passage obligé d'acheter une prestation avec un streamer ou plusieurs streamers peut-être pour commencer à se faire connaître, parce que dans l'esprit des gens, je pense que généralement quand ils voient des streamers, ils se disent les gens ils montrent des jeux qu'ils apprécient, et peut-être qu'il y en a qui sont payés, mais c'est pas la majorité. Est-ce que c'est un passage obligé pour, à ton avis, pour les petits devs indés qui se lancent, d'acheter des prestations chez des... J'imagine que c'est pas des streamers énormes, parce que d'une part peut-être qu'ils font pas, et d'autre part peut-être que on peut pas se le permettre quand on se lance, mais c'est le passage obligé.
Yannick, je te laisse répondre ou tu veux
continuer? Oui. En fait, je pense que ça dépend aussi du public qu'on vise. Et puis de ce qu'on a envie de mettre en place aussi. Comment dire ça? En fait, dans tous les cas, il faut investir de l'argent dans la communication si on veut une grosse communauté. Et c'est souvent là que les studios indés négligent ça. Et du coup, on a beaucoup de mal. C'est très difficile de créer une communauté sans verser d'argent, en fait. Soit ça demande énormément de temps que nous on n'a pas trop, mais là typiquement visiblement en fait les streams c'est un petit peu ce qui marche le mieux dans le sens où il y a plusieurs types de streamers et qu'on les paye pas tous. Tous les petits streamers qui ont que quelques viewers, en fait, c'est gagnant-gagnant. En échange de eux qui streament ton jeu, tu peux leur tu les retweets en gros, et puis ça contribue à faire leur communauté aussi. Et après, bah, au-dessus de ça, il y a les streamers qu'on paye, et tous les gros streamers qu'on connaît, je pense 99% des jeux qu'ils font, c'est des prestats que les studios ont payés.
Tu crois vraiment à ce point-là?
Bah, j'ai même cru comprendre que c'était hyper mal vu pour un streamer d'accepter de parler d'un jeu gratuitement, en fait. Ça fait de la concurrence aux autres qui, finalement, eux, c'est leur proposition de valeur.
Et... D'accord. Ouais, bon, ouais, je pense qu'ensuite, il y a plein de types de streamers différents, mais c'est intéressant de voir que dans le monde des devs indés, pour se lancer à un moment, il faut... Enfin, ça a l'air d'être une étape obligée. D'accord.
Il faut vraiment réussir à faire un noyau de communauté. Même quelques personnes, mais hyper actives et qui feront vivre un peu le truc, pour ensuite l'alimenter en faisant parler de nous sur les réseaux sociaux, sur les streams. Et c'est ce noyau qu'on essaie de créer, en fait, et c'est peut-être un peu trop tard. Il aurait fallu l'avoir au début du crowdfunding. Et si on avait eu ça, on aurait pu l'alimenter facilement avec l'argent qu'on a mis dedans. Après, c'est hyper difficile sans pouvoir faire tester le jeu. Comme il est moche, on s'est dit que les gens comprendraient pas trop le côté proto, le fait qu'il ne restait plus que les modèles à faire sans être complètement dans le milieu, et que ça les aurait un peu détournés de ça.
Du coup, ok, pour les Elstrif, c'est pour info un streamer qui a 4000 followers à peu près. Ces vidéos, je vois sur sa page Twitch, ils ont entre quelques dizaines et quelques centaines de vues. Donc, c'est vraiment un moteur pour les devs indés où on se dit, ben, on va présenter notre jeu. Et puis, peut-être qu'à chaque vidéo, il y aura même quelques-uns ou une dizaine de personnes qui se disent, on va contribuer au Ulule. Ça peut jouer, quoi, à force.
C'est ça.
On a plusieurs. Donc, ça serait la mécanique que vous auriez voulu mettre en place.
C'est ça, parce qu'on se rend compte en fait que les journaux, les forums, tous ces autres vecteurs de com ne fonctionnent pas.
Ça convertit pas,
en fait.
Quoi.
Ça convertit pas du tout. Et ça, on l'avait déjà un peu vu hein, dans notre ancien studio, que c'était compliqué de convertir des gens sur un article. Alors, si j'imagine que sur des gros sites comme Indie Mag ou des choses comme ça, ça pourrait convertir un peu, mais je suis même pas certain. Et de toute façon, pour nous, on était trop tôt, on n'avait pas de jeu à faire tester. Du coup, pour avoir des gros magazines comme ça, c'était compliqué.
D'accord.
Et voilà. Donc visiblement, alors on va tester. Hein, peut-être que ça marchera pas les Twitch, mais les canaux Twitch. Mais je pense qu'effectivement, essayer de toucher plutôt régulièrement une ou deux personnes, tu vois, par jour, sur des petits canaux Twitch, même ceux inférieurs à Elstrif, hein, il y en a qui, du coup, se font pas payer et qui font ça, mais si ça ramène à chaque fois une ou deux personnes, petit à petit, ça fait un peu un effet boule de neige, quoi. Mais, faut arriver à convertir les premiers, et visiblement, les canaux Twitch, c'est un peu ce qu'il y a le mieux pour l'instant, quoi.
D'accord. Donc, on arrive à il y a quelques jours. Là, vous êtes donc une équipe de trois à ce moment, à peu près, d'après ce que je comprends. Le Ulule se termine malheureusement sans atteindre l'objectif.
C'est ça.
Donc, c'est la dernière étape dans laquelle vous êtes, si je comprends bien.
Ouais.
Où vous en êtes maintenant? D'abord, quelle est la réaction? Vous saviez que ça n'allait pas atteindre l'objectif, je pense. La réaction, et puis, où est-ce que vous allez pour les semaines et les mois, et peut-être les années à venir? Où vous en êtes?
Alors, la réaction, c'est... dimanche, c'est la finale de la Coupe du Monde de football, donc on va être champion du monde, donc du coup, ce sera cool. C'est plutôt, félicitations, on est deux. Enfin, trois avec Julien qui fait les dessins, mais deux sur la com à fond. On a fait 36%. C'est plus que notre ancien studio sur Kickstarter. On s'est bien battu. Il y a 130 contributeurs. On n'a pas démérité. On n'est pas capot. Donc, félicitations à l'équipe qui a bossé parce que c'est du beau boulot. Ensuite,
donc vous êtes retrouvé à trois, vous êtes serré les mains. Ouais, félicitations, t'as bien bossé, bien joué.
Ben ouais, c'est un peu ça. Il faut, enfin, je
et
pense que
un coup, quoi.
C'est ça. Il faut. On s'est dit bon, maintenant on peut aller boire une bière, on peut aller se détendre, faire une, voilà, se prendre un week-end off, tu vois, profiter un peu de du beau temps et parce que ça, on l'a pas fait du tout pendant un mois et demi. Et donc c'est important aussi de se dire que on a bien bossé. Enfin, dans une équipe, c'est très. Je trouve que c'est important. Renvoyer à Julien, parce que Julien était vraiment sous l'eau, il faisait que des dessins, donc il avait moins la com. Moi, je lui envoyais régulièrement des messages en lui disant « Écoute, t'as des commentaires comme quoi tes dessins sont top, que le boulot est incroyable. » Donc ça remotive et ça permet aussi de tenir.
C'est sûr que tu peux... Enfin, vous avez compris, je pense, mais pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'accroche et qui fait que les gens vont ensuite aller chercher plus loin pour être intéressés par le jeu en lui-même. Mais c'est essentiel, je crois, ouais.
C'est pour ça qu'on l'a gardé, hein. C'est pour ça qu'on s'est dit,
faut pas le laisser partir.
Faut qu'on bosse avec lui.
Les perspectives pour l'avenir, du coup, j'imagine que ça a aussi été, ça a aidé à passer l'étape du Ulule, parce que pour ce type de projet, tout ne repose pas sur le Ulule, et vous avez déjà préparé la suite, quoi.
C'est ça. Et du coup, voilà, la deuxième réaction, c'est bon, maintenant, il va falloir qu'on arrive à convaincre les banques. Et donc là, je suis dedans depuis... en fait, ça fait depuis le début du mois, là. Donc, on a emménagé dans nos locaux en juillet. On a fait tout un peu en même temps. Hein. On a posé nos dossiers de demande de subvention. Et donc, normalement, c'est convaincre les banques de nous
suivre. Du coup, la boîte a été créée quand,
Le 26 juin.
D'accord. Donc, c'est encore tout frais.
C'est tout récent. Ouais.
Locaux loués, j'imagine. C'est ça. Bureaux installés. Et là, vous allez voir les banques, vas-y, continue.
Donc, il faut trouver les banques et puis financer acheter des machines, acheter des PC, etc. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de ne pas cramer sa trésorerie directement. Donc, tous les love money, tout l'argent qu'on apporte, nous, de ne pas l'utiliser pour acheter des machines, qui sont des choses qui se périment très rapidement, mais plutôt d'essayer d'avoir un prêt bancaire dédié à l'achat de machines. Et donc là, c'est ma bataille depuis un moment, d'essayer de convaincre les banques de nous prêter 10 000 euros pour acheter 5 PC pour que début août, le 1er août, on puisse, Gilles Duin, notre artiste 3D et puis notre stagiaire 3D et puis que notre stagiaire en développement ait un PC autre que le PC portable, parce qu'aujourd'hui chacun bosse sur son PC portable.
Sur son PC perso, quoi.
C'est ça, PC perso portable.
Sachant qu'on a déjà eu une petite réussite de ce côté-là, puisque le même jour qu'on a monté la boîte, on a eu un retour positif d'une commission pour des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts personnels, mais qui sont dédiés à être investis dans la boîte. Et en plus de ça, on leur a tellement plu qu'ils nous ont accordé un prêt d'excellence, qui est un prêt pour la boîte, mais conditionné à l'obtention d'un autre prêt pour la banque. En gros, la banque en question, c'est la BPGO.
Ouais.
Et si on a un prêt auprès de cette banque-là, on a en plus le prêt d'excellence automatiquement. Donc ça, c'est une grosse réussite déjà dès le début.
D'accord.
C'est un peu plaisir.
Ok, donc bon, on a quand même parlé très longtemps, plus longtemps que je pensais, donc on va s'acheminer petit à petit vers la fin. Je vais vous libérer, mais là, en fait, moi, j'avais l'impression que vous étiez au début de votre aventure, mais je me rends compte que vous êtes à mi-chemin presque, parce que vous avez un prototype qui fonctionne, qu'il faut maintenant habiller et peaufiner, etc. Il y a beaucoup de boulot encore, mais j'ai l'impression que vous êtes pas à mi-parcours, mais presque, peut-être à tiers ou à mi-parcours. Quelles sont les étapes qui vont venir maintenant, et quels sont vos horizons? Peut-être pas vous demander quand est-ce que le jeu va sortir, mais en même temps, je me dis peut-être que vous avez déjà prévu une date de sortie ou au moins une date d'alpha ou de bêta. Quelles sont les choses que vous voyez venir dans les mois et peut-être les années à venir?
Yannick.
Du coup, là, en fait, notre échéance... notre chance vraiment à très très court terme, c'est que ce soir, on va présenter le jeu Warpzone de Rennes. Du coup, on va installer sur quelques PC et laisser jouer les gens. Et sinon, là, le truc qui va arriver le plus rapidement, c'est les résultats du CNC. Du coup, on aura la commission qui s'occupe de ça fin août. On aura les résultats après assez rapidement. Et en fonction de si c'est oui ou non, ça nous sécurisera pas mal après pour investir un peu plus dans la production du jeu.
Mais qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas l'argent, en fait?
Ah ben là, il faut trouver d'autres solutions.
D'autres solutions. En fait, il y a plein de plans. On est, voilà, Yannick est sur l'écriture de tout le document de game design en anglais pour un fonds d'investissement. Donc ça, c'est l'échéance qui va arriver rapidement. Là, il faut que avant fin août, on ait déposé le dossier auprès de ce fonds d'investissement. Bah moi, du coup, là, je revois la Technopole des Côtes d'Armor en fin de semaine pour voir justement quels sont les plans à envisager stratégiques, essayer de chercher peut-être un business angel ou plusieurs business angels pour pallier au CNC si jamais on l'a pas. Continuer ouais, donc à démarcher le reste des banques.
Donc c'est ce que je comprends, c'est que c'est pas un oui ou non quelque part, c'est qu'il y a 1000 portes à essayer d'ouvrir et il y en a toujours c'est une ça. Autre s'il y en a une qui reste fermée quoi. Mais
voilà,
c'est un boulot,
c'est un boulot à plein temps, en fait. Quoi.
Ah, c'est ça, le monde de la création d'entreprise, il faut essayer plein de trucs et il y a beaucoup de déceptions. Le crowdfunding c'en est une, mais on est prêt à encaisser un peu quelques déceptions et dans tous les cas, on en tire et peu importe ce qui se passe, on aura toujours des solutions.
Et d'accord. Pour parler du jeu plus concrètement, là, l'objectif, c'est de sortir une démo grâce à notre stagiaire en 3D, là, de sortir rapidement une démo jouable, mais dans l'univers, vraiment, avec un des personnages qui est Enki, le montrer dans l'univers avec ses mécaniques de combat. Donc pour pouvoir proposer, même si les personnages et les animations ne seront pas forcément celles qui seront définitives, mais pouvoir immerger vraiment le joueur dans faire de l'habillage, hein, comme tu disais, dans une démo que les gens pourront tester et vraiment du coup se rendre compte de ce que ce sera le jeu quand on aura tous les fonds. Pour pouvoir après peut-être relancer un Kickstarter plus massif avec pour compléter les fonds et surtout pouvoir recruter toute l'équipe parce qu'il nous faut encore quatre ou cinq personnes pour pouvoir faire le jeu le plus rapidement possible. Après sinon c'est... en fait moins on a de gens plus le jeu va
prendre
mettre
du
temps.
Ouais, je comprends. Ouais.
C'est ça.
C'est sûr qu'avec une démo skinée, texturée, 3D modélisée, ça sera beaucoup plus facile de faire rêver les gens quoi et le
c'est
concept
ça.
Étant bon. D'accord, très bien. Bah écoutez, et tu disais la démo, vous visez quand pour une disponibilité?
Joker.
D'accord, ok, très bien. On va vous laisser vos secrets de fabrication.
Là,
plutôt,
on veut éviter les effets où on va dire une date et en fait on va shifter.
Ouais, bien
parce
sûr.
Qu'on
non,
sait
non,
que
c'est
bien. Possible. Du coup, voilà, on ne peut pas s'avancer là. Notre petit jeune, il bosse bien, mais on n'a pas encore vraiment travaillé un mois complet avec lui, donc on peut pas prédire.
Bien sûr, bien sûr.
Donc voilà, Joker.
Et donc c'est le stagiaire qui met en place la démo à partir de tout ce qui est. C'est du boulot, c'est impressionnant quand même.
C'est du boulot, ouais. Ouais, il est très bon.
Très bien. Bah écoutez, tout ça me donne encore plus envie de voir le jeu arriver dans nos machines, ou du moins la démo. Et moi personnellement, j'avais déjà soutenu le Ulule, parce que le concept me plaisait, même si je me doutais qu'il n'arriverait pas au bout. Mais si vous lancez un Kickstarter derrière, je pense que je serai de la partie aussi. Dans tous les cas, si les gens veulent avoir plus d'informations, il n'y en a pas énormément, mais peut-être que certains auditeurs seront curieux. Où est-ce qu'ils peuvent trouver des infos? Et puis d'une manière générale, si vous avez un message à faire passer avant qu'on conclue l'émission, allez-y, c'est le moment.
Eh bien, s'ils veulent trouver des infos, il y a notre site centurytigregames.com où là il y a déjà les liens vers les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et puis surtout l'accès à notre Discord. Et c'est là où en fait on va vraiment renforcer notre discussion sur Discord. Le Discord va devenir le point incontournable si les auditeurs veulent venir accéder au pré-alpha, obtenir des clés, des bêtas, etc. Ce sera là. Et uniquement là que ce sera distribué. On va essayer on va changer notre Discord. On va y mettre un bot pour pouvoir vraiment gérer des groupes, etc. Et donc, n'hésitez pas à joindre notre Discord. Le site, tout ce qui est sur Ulule sera transféré sur le site, pour avoir une vitrine. Mais venez discuter avec nous sur Discord. Vous aurez les infos, les clés d'accès, et puis voilà.
Très bien, très bien. Je ne sais même pas si on a dit le nom du jeu, si j'ai dû le mentionner, c'est Célion.
Si, Célion.
Célion. Est-ce que c'est la prononciation correcte, Célion, ou Célion, ou non, Célion.
C'est Célion, ouais, nous on le fait à la française, après peut-être que dans la vidéo, il doit dire Célion, je pense. Okay. Parce qu'on a pris un anglais, mais...
Oui, d'ailleurs, ça aurait été... On n'a plus trop le temps, mais ça aurait été intéressant de voir comment vous avez trouvé le voice, l'acteur qui a fait la voix du... Écoutez, il faudra que vous reveniez pour nous parler de tout ça.
Donc, c'est ça, on pourra faire une deuxième quand on lancera la démo, qu'on pourra... plus détaillé si tu veux.
Et ben en tout cas le lien vers le Twitter qui donne les liens vers tout sera dans les notes de l'émission. Merci à tous les deux Tristan et Yannick d'avoir passé du temps avec nous. Pour ma part, bah vous le savez, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous pouvez retrouver l'émission et d'autres émissions sur frenchspin.fr et il y aura les notes pour cet épisode également. Donc, c'est à peu près tout. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. C'était un petit peu particulier parce que, normalement, si tout va bien, je suis en vacances, mais on reviendra dans quelques jours pour un épisode classique. Encore une fois, merci à vous deux et à Sentry Games, officiellement, d'avoir participé à la mission. Et puis, peut-être qu'on se recroisera à un moment.
Merci beaucoup.
Allez, ciao. Ciao à tous.